Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Salut à tous, il est tard mais ça valait le coup d'attendre. France-Belgique, c'était jeudi soir, la demi-finale de la Ligue des Nations. Avec cette victoire qu'on va qualifier de renversante, il y a tellement de choses à dire autour de ce match. Vous l'avez sans doute vu, l'équipe de France était menée 2-0 à la mi-temps. Et même plus tard, à la 61e minute, il y avait encore 2-0. Et puis, on va pas parler de miracle, enfin on va peut-être en parler, mais on va définir un peu tout ça dans les 20-30 minutes qui viennent. L'équipe de France en est sortie, a gagné 3-2. Martin, j'imagine qu'à Turin, tu as passé quand même, j'allais dire une bonne soirée, au moins une bonne fin de soirée.
C'était une soirée folle, une soirée dingue, une soirée renversante, une soirée dont on se souviendra, quoi qu'il arrive. Ce n'était que la Ligue des Nations. Il n'y a pas de trophée au bout, ou alors un trophée en bois. Mais en tout cas, on sent qu'il s'est passé quelque chose. Il y a deux choses. Il y a l'intensité dramatique du match. Il y a aussi l'intensité dramatique autour de ces bleus-là, parce qu'on sait que si ça s'était mal passé, ça aurait pu vraiment mal virer, mais on en parlera un peu plus tard. Et c'est tout ça qui fait qu'on a vraiment vécu une soirée, pas unique, mais une soirée marquante et dont on se souviendra. Maxime, on va développer d'ailleurs cette soirée autour de trois thèmes, peut-être. D'abord, on va parler du trio offensif, les trois qui ont peut-être fait leur meilleur match ensemble. Après, on parlera justement de... On essaiera de classer ce match dans l'histoire des Bleus de Deschamps et on finira peut-être... J'ai fait tout le sommaire d'un coup, d'ailleurs, Maxime. Hein. J'ai tout fait d'un coup.
Il n'est plus l'heure de patiner, d'y aller.
Exactement. Et on finira peut-être en se posant la question, est-ce que les joueurs ont sauvé la tête de Deschamps, tout simplement ? Parce que franchement, à la 45e, c'était chaud pour des...
On finira peut-être, j'espère qu'on finira, sinon ce n'est pas bon signe pour toi ou pour moi. voilà. Mais en tout cas, oui, et on va parler aussi de ce match-là, on va le classer parce que Didier Deschamps a dit lui-même en conférence de presse que c'était un des plus grands matchs d'équipe de France de son ère. Donc on va essayer quand même de voir, parce que c'était quand même un match paradoxal, et on va débuter donc par le trio qui a marqué. Alors, qui a marqué. À un moment, j'ai cru qu'on allait peut-être avoir un but des trois, mais quand j'ai vu la position de Pogba sur le coup franc, j'ai compris qu'il a tiré, sur la barre. Donc pas de but pour Griezmann, mais un but pour Mbappé, un but pour Benzema, et. Alors, moi, je vais te le dire tout de suite, c'était pas Byzance, mais c'est ce qu'on a vu de mieux pour l'instant sur ce trio, même s'il y a quand même beaucoup, beaucoup de travail, parce que mon impression première, c'est que comme on avait vu contre la Finlande, il y avait un trio qui était constitué de Martial, Benzema et Griezmann, ça avait bien marché à deux. J'ai encore un petit peu cette impression-là face à la Belgique, que ça a mieux marché entre Benzema et Mbappé et un peu moins Griezmann, mais... Quand même, ce que j'ai aimé, et ceci dès le début du match, c'était les intentions. On a quand même senti que les choses s'étaient remises en ordre. Alors, je pense que Mbappé de crever l'abcès dans cette interview et ce plan média, ça a joué. On peut en rire, on peut penser ce qu'on veut. Mais je pense en effet qu'il s'est soulagé d'un poids. Et ça s'est vu sur le terrain. Et au moins, Martin, on a vu que les trois avaient envie de jouer ensemble. C'est pas parfait, c'est vraiment pas parfait. On en est loin, mais il y avait quelque chose au moins.
Moi, j'ai presque vu deux doublés. Plutôt qu'un triplé, c'est-à-dire qu'effectivement, Griezmann et Mbappé, j'ai trouvé ça pas mal. C'est un peu eux qui ont maintenu quand même l'équipe de France durant les 60 premières minutes. Et puis oui, Benzema et Mbappé, un peu moins Griezmann, Benzema. Mais malgré tout, effectivement, comme tu le disais, et c'est sans discussion possible, le match le plus abouti de ces trois-là, un but pour Benzema, Mbappé. Et je rappelle quand même que Griezmann a provoqué un penalty, il y a eu du mouvement, il y a eu des combinaisons, il y a eu de la prise d'espace, il y a eu des remises. Si on analyse un peu plus profondément, on se rend compte quand même que Mbappé était au cœur de tout dans ce match-là, c'est-à-dire au début, au milieu et presque à la fin, même s'il marque sur penalty, il était dans tout. Et donc quand il y a Mbappé comme ça, qui à la fois et l'instigateur, mais aussi peut servir ses coéquipiers, même s'il oublie Benzema sur une action qui est franchement, c'est ouvert devant lui, il doit la donner à Benzema. Mais malgré ça, quand on a Mbappé comme ça, qui est multidimensionnel, on a une attaque qui prend un autre sens. Parce que finalement, ce qui manquait, c'était ça. C'était que Mbappé se trouve son rôle, se trouve sa place dans ce trio-là. Et à partir du moment où il la trouve, alors il y a des excès d'individualisme, etc., mais on va pas pouvoir lui reprocher ce soir, mais à partir du moment où il trouve sa place, ce trio prend son sens.
Mais on va le redire ici, moi le premier, qu'il y ait des excès d'individualisme de Mbappé de temps en temps, ben, c'est normal, vu le talent qu'il a.
C'est son jeu aussi.
Il aurait bien tort de s'en priver. Il y a un moment en première mi-temps où il est dans la surface, il est vraiment entouré, mais il met deux plombes à donner le ballon, finalement ça ne donne rien. Je crois qu'il y avait 4 ou 5 joueurs autour de lui. Et puis il y a cette passe. C'est vrai qu'à ce moment-là, sur la passe sur Benzema au début de la deuxième période, où il repique dans l'axe, et on se dit, mais c'est pas possible qu'il ne le voit pas, il est tout seul. Voilà.
Mais c'est son seul pichet mignon de la soirée.
Mais voilà, c'est ça. C'est vraiment
parce qu'il en donne une belle à Griezmann aussi.
Et parce que, et je tiens à le dire, c'est pas seulement à partir du moment de la deuxième mi-temps où je trouve qu'il est dans de meilleures dispositions, ça se voit d'entrée de jeu, tout simplement. Il y a un détail qui va peut-être paraître un détail à vos yeux, mais qui n'en est pas un, c'est-à-dire que vous voyez garder le coup d'envoi. J'aime beaucoup toujours regarder les coups d'envoi, parce que vous voyez la disposition des joueurs et des choses. Et ben Mbappé, il est dans l'axe, mais dans l'axe droit. Et ça, c'était plus jamais le cas avec l'équipe de France, puisque c'était fameux de côté gauche. Alors évidemment, ça reste l'axe, mais n'empêche qu'il était à droite. Et ça dit aussi quelque chose de ce qu'il va faire, de ce qu'il a envie de faire, de ce qu'il est à ce moment-là. Et puis en effet, il a fait des différences. On l'a vu partir, tenter le coup. Des fois, il y a des excès, il y a du déchet, mais c'est normal, encore une fois, on ne lui reproche pas ça. Parce que je trouve que là, on est vraiment... On n'est pas loin de, non pas d'une perfection de Mbappé en équipe de France, parce qu'il peut faire encore beaucoup mieux, mais de ce qu'on a envie de voir plus souvent, c'est-à-dire qu'un joueur qui prend de meilleures décisions et qui est dans le bon tempo et dans le bon rythme. Griezmann, après, je pense qu'on a eu un Griezmann qui est un peu fidèle à lui-même sur les efforts, ça, il n'y a toujours rien à dire. Après, il a manqué de voilà, il y a une action, notamment dans la surface, où on se demande même comment il reprend le ballon. C'est sur un centre de Mbappé, d'ailleurs. Il fait une espèce de flip-flap, enfin, double contact, pied droit, pied gauche, improbable, à 5 mètres du but, où il rate la cible. Voilà, je pense que Griezmann est encore un ton en dessous. Mais au moins, on a vu... Parce que déjà, il y a quelque chose qu'il faut dire, ce ne sera pas les Harlem Globetrotters. C'est pas, ils ne vont pas se faire des passes pendant le match, l'un qui va donner à l'autre, qui va redonner au suivant. Ça ne peut pas être ça. Mais déjà, quand ça combine à deux, bien... et que c'est assez équilibré, que ce n'est pas toujours les deux mêmes, ça dit quelque chose aussi de leur envie de jouer ensemble. Et l'équipe de France, ce soir, ne s'en serait pas sortie si les trois n'avaient pas trouvé ça, et surtout si Mbappé n'avait pas évolué à ce niveau. Et on le redit, on l'a dit en introduction, plan média de Mbappé, ça a pu énerver certains, mais n'empêche qu'il a dit ce qu'il avait sur le cœur, il s'est libéré l'esprit, et puis ce soir, il fait un grand match, et je pense que ce n'est vraiment pas un hasard, encore une fois, il avait besoin de ça. Donc là, il s'est remis dans le bon sens, espérons que ça dure, parce qu'il y aura quand même une finale dimanche face à l'Espagne, et ça ne va pas être évident non plus.
Là, il y a tout qui nous fait dire qu'on est face à un mec taillé d'un autre bois, parce qu'il se met une pression folle quand même, avec cette interview quelques jours avant France-Belgique. Et puis, c'est un joueur de grand match. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour Mbappé. On rappelle qu'il est resté sur un seul but en un an. Ouais. C'est son meilleur match en équipe de France depuis un an. C'est l'un de ses meilleurs matchs depuis la Coupe du Monde, quasiment. Voilà, il redonne un sens à sa carrière en bleu pour la 50e. Je veux revenir aussi sur le match de Benzema, qui marque un but avec rien quand même. Il marque un but que seul lui peut marquer, parce que cette action-là, elle est démente. Voilà, il n'y a que lui qui peut marquer un but comme ça. Et ça sonne, et ça réveille quelque chose dans cette équipe de France. Et c'est lui qui sonne la révolte quand même, Karim Benzema. Donc il est important dans les relais, dans la construction. Les 20 dernières minutes, en tout cas du stade, elles étaient vraiment belles à voir. Parce qu'il y avait toujours une solution apportée au porteur du ballon. Il y a Pavard qui prenait l'espace. Et c'était toujours dans un souci d'aller dans le sens du jeu, dans le sens du but. Et il y avait très peu de gestes superflus. Et surtout entre Mbappé ou Benzema, où c'était un balai entre Benzema et Mbappé les 20 dernières minutes, on va dire. C'était vraiment chouette à voir.
Et il faut dire quelque chose sur Mbappé. Tu disais tout à l'heure qu'il est d'un autre bois. Ouais, et en plus, symboliquement, ce 18e but en équipe de France, il le met sur pénalty. C'est-à-dire que le pénalty de
Bucarest, il
va le tirer. Et il y a un plan qui était très marquant, c'est qu'on voyait Courtois dans son but. Courtois qui n'a pas plus grand, il n'y a pas plus large. Il tapait la barre comme ça avec ses mains. Et là, on se dit, il prend beaucoup de place quand même dans le but. Donc, il faut la mettre. Qu'est-ce qu'il fait Mbappé? Il va chercher la lucarne gauche donc de Courtois. Voilà, c'est un pénalty. Ça peut rester un pénalty, mais je pense qu'il y avait une charge mentale, une charge émotionnelle autour de ça. Il exorcise un petit peu le pénalty de Bucarest, même si ce n'est pas le même poids. mais n'empêche qu'il a une importance accrue et démesurée par rapport à ce qu'il aurait dû être, un simple penalty. Donc voilà, il s'est remis dans le bon sens, maintenant il faut espérer que ça continue. Et encore une fois, ce trio-là, on est loin de la perfection contre la Belgique ce soir, mais on a vu quelque chose de mieux. Et enfin, on a eu l'impression que ça progressait, et à 3, ou comme tu l'as dit, en binôme, mais peu importe. C'est-à-dire que ça combinait quand même Exactement. Entre tout le monde, et c'est ça le plus important.
Et au-delà de leur talent, parce que leur talent n'est pas un sujet, leur talent. C'est leur caractère, leur orgueil. Mbappé et le pénalty, c'est la meilleure façon de répondre. Moi, quand je l'ai vu prendre le ballon, je me suis retourné vers mon voisin, je me suis dit, il est incroyable. Il est quand même incroyable. C'est quand même fou. C'est-à-dire, combien de joueurs auraient fait ça ? Enfin, c'est dément ce qui se passe à ce moment-là, face à nous. Et y a aussi Benzema, et il y a aussi Griezmann qui est dans le trou à Atlético, mais qui en équipe. Enfin voilà, ils symbolisent bien ce truc-là, ces trois-là, cette équipe de France, cette réaction-là, et c'est bien que ça vienne de ces trois-là.
Après, ouais, mais on n'a toujours pas la réponse de qui est le tireur attitré de penalty. Hein.
C'est voilà, ça reste un grand mystère. Ouais. On fait le bilan de ce match-là dans les 9 ans de Didier Deschamps.
Parce que c'est quand même un match. Il y a des matchs comme ça qui sont compliqués à analyser en tant que journaliste. C'est-à-dire que si Lukaku marque le troisième but, qu'est-ce qu'on retient de ce match-là ? La réaction d'orgueil ou la défaite ? Je pense qu'on aurait quand même un petit peu penché vers la défaite, qui aurait fait un peu désordre. Même s'il faut le rappeler, parce que dans une saison qui ressemble à une saison pourrie pour l'équipe de France, l'équipe de France n'a toujours pas perdu un match à la fin du temps réglementaire. Donc voilà, ça signale quand même si, encore une fois, ça ne relève pas le niveau de ce qui s'est passé à l'Euro. Didier Deschamps a dit que c'était un de ses meilleurs matchs, un des meilleurs matchs de son équipe depuis le début de son mandat, c'est-à-dire en 2012. Martin, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'il ne faut pas séparer, on va dire, la charge émotionnelle de ce qu'on a vu quand même sur le terrain ? Parce qu'un match, ça fait quand même 90 minutes.
Ouais, mais la charge émotionnelle, ça compte. Moi, tu sais que je suis très sensible à ces choses-là. Ça compte, la charge émotionnelle. Donc, si on prend que ça, c'est un top 5. Après, si on prend l'ensemble, l'image d'ensemble, c'est-à-dire qu'on considère que, malgré tout, l'enjeu sportif n'a rien à voir avec une compétition internationale, moi, je mets des matchs qui sont largement au-dessus, et ça, c'est indiscutable. C'est la Belgique en demi-finale, c'est la finale de la Coupe du Monde, c'est le France-Allemagne, la demi-finale, c'est le France-Argentine, évidemment, la demi-finale de l'Euro, le France-Allemagne, l'Argentine, évidemment. Le France-Ukraine en barrage en 2013, mais derrière donc, ces 5 matchs-là, ouais, je le mets entre la 5e et la 10e place parce que malgré tout, même si c'était que de la Ligue des Nations, il y avait un enjeu qui était grand derrière, on en a beaucoup parlé, c'est que si ça reste à 2-0 ou que tu t'en prends même en 3e en seconde période, ça peut changer le destin de cette équipe de France. Parce que c'est la Belgique en face, donc pas n'importe qui, alors là aussi il y a une charge émotionnelle avec la Belgique, mais c'est aussi et surtout une des meilleures équipes du monde. Et puis parce que malgré tout, bon, c'est presque un détail quand on analyse tout ça, mais ça reste une demi-finale. Voilà. Et tout ça mis à bout, c'est-à-dire le contexte, la séquence dans laquelle était cette équipe de France, évidemment le scénario, tout ça mis à bout, moi je le mets ouais, entre, alors, je ne sais pas, peut-être 7, 8, 9e match sous mandat de Didier Deschamps.
Ouais, parce que là, je réfléchissais en même temps que tu disais. Je suis à peu près d'accord sur tout ce que tu as dit. Alors, le France-Allemagne 2016, il y a la charge émotionnelle qui est fantastique. Moi, personnellement, dans un stade, je n'ai pas entendu d'ambiance aussi forte que ce soir-là. Mais n'empêche qu'on se fait quand même bien balader par les Allemands pendant une bonne partie du temps. Donc voilà, je rajouterais un match. Je mettrais la finale de Coupe du Monde. Parce que ça reste une finale de Coupe du Monde et que même si la première mi-temps est bizarre, il faut quand même la gagner. Et au moins les 20 minutes de début de seconde période valent vraiment le niveau. Et j'en mettrai un qu'on finit par oublier, mais qui était fondateur et qui est un immense match à mes yeux, même s'il n'est pas gagné. C'est le Espagne-France de Vicente Calderón en 2012, en octobre 2012, où cette équipe est quand même menée face à l'Espagne. Il y a un pénalty raté par Fabregas, de mémoire, enfin arrêté par Lloris, et une deuxième mi-temps qui est assez phénoménale. Alors que c'est l'immense Espagne qui vient d'être sacrée championne d'Europe pour la deuxième fois et qui est championne du monde en titre. Donc je mettrai quand même ce match-là. Et puis après, oui, il n'y en a pas des masses autour.
Il y a le France-Suisse de la Coupe du Monde 2014 et peut-être le France-Allemagne de l'Euro 2020 aussi.
Oui, voilà. Ah oui, tu ne l'as pas mis. Ah bah oui, celui-là, moi, c'est un de mes préférés.
Voilà. Donc, ça fait 9e, quoi. 8-9e.
Voilà, je pense qu'on peut le mettre dans un top 10
élargi. Mais c'est un match qui compte. Mais alors, qui
on
compte,
mettrait
c'est
peut-être
dur
plus
parce
haut
que...
sur la charge émotionnelle, c'est ça.
Oui, voilà.
Mais comme tu dis, c'est un match qui compte.
C'est un match qui compte parce qu'il remet un petit peu l'équipe de France dans le concert des grandes nations. Il y avait un doute. Alors, encore une fois, pas sur le talent de cette équipe de France. Ça, on ne va pas revenir dessus. Il n'y a qu'à voir les noms couché sur la feuille de match. Mais il y avait un doute sur cette équipe de France. Né de l'Euro, né de la rentrée pourrie, né de ces trois-là dont on ne savait plus trop quoi penser, ça n'apporte pas toutes les réponses, non. Mais ça peut être effectivement un tournant. Alors, pour que ce soit un tournant, il faut voir ce qui va se passer derrière, puisque si tu en prends 4 contre l'Espagne sans toucher le ballon dimanche, le tournant, il n'y en a pas. Mais ça esquisse quelque chose. Et dans la vie de l'équipe de France, dans la trajectoire de l'équipe de France, pour moi, il est important ce match.
Ouais. Et ce qui est relatif aussi dans ce match-là, c'est qu'en fait, pour moi, ce match-là, il connaît 3 phases. Une première phase où les deux équipes se regardent un peu les yeux dans les yeux pendant une demi-heure. On sent qu'ils ont un peu plus de velléité offensive que le match de Saint-Pétersbourg en 2018. Mais c'est kiff-kiff, évidemment, à part l'arrêt de Lloris qu'on a fini par oublier, qui est quand même un arrêt quand même formidable, qui lui, pour le coup, rentre peut-être dans ses top 5 des arrêts en équipe de France. Parce que le ballon est derrière lui, il est assez formidable sur la frappe de De Bruyne. Après, il y a cette perte de pied qui n'est pas aussi spectaculaire que contre le Portugal à l'Euro, c'est-à-dire après le but de Ronaldo, où là, on sent qu'en 10 minutes, on ne sait plus ce qui se passe. Mais là, il perd de pied parce qu'il y a ce but de Carrasco. Et puis évidemment, ce but énorme de Lukaku qui est aussi énorme que Hernandez est complètement dépassé sur le coup. Et ce qui est formidable, voilà, c'est cette seconde période. Et je trouve que ça relève un peu plus les performances d'équipe de France de la Coupe du Monde. Parce que moi, j'ai eu l'impression au début de deuxième période que la Belgique, c'était dit, on est à 2-0. On va leur faire comme à eux, c'est-à-dire on va les attendre. Voilà. Sauf que là, c'est la preuve par l'absurde que ce n'est pas donné à tout le monde de défendre et bien et de savoir le faire. J'ai eu la chance d'interviewer Roberto Martinez avant cette rencontre, il y a 2 semaines. Il me parlait de l'ADN de la Belgique qui est de se créer des occasions de jouer constamment, d'aller vers l'avant. Et c'est vrai que c'est l'ADN de la Belgique qui a qu'à le voir. Elle ne le fait jamais aussi bien que quand elle décide d'aller vers l'avant. Elle a arrêté d'aller vers l'avant. Elle s'est complètement ripée et ça relève un peu, encore une fois, la force de caractère de cette équipe de France. Et la force de caractère de l'équipe de France, c'est aussi ce qu'on a vu ce soir. Justement, revenir, parce qu'encore une fois, il y a 2-0 à une demi-heure de la fin. Et là, on a une petite séquence qui ressemble un peu à la Suisse, finalement, où les Bleus reviennent à 2-2. Et puis après, voilà, mais encore une fois, c'est vraiment une victoire à l'orgueil.
Moi, si je devais le rapprocher d'un match, celui-ci, alors je le mets en dessous quand même de ce match-là, mais... dans ce que j'ai ressenti dans le stade et face à ce match-là, alors c'était pas la même ambiance évidemment, parce que là, franchement, je viens du stadium rempli à moitié, bon voilà, mais ça se rapprocherait, moi, de France-Argentine un petit peu. Alors peut-être sur le côté fondateur ou voilà, dans le côté un peu folie-furie, plus que de la folie, de la furie et cet élan, et puis le fait que c'est un match sur un fil aussi, que tu sens qu'il peut basculer et qu'il se passe plein de choses et donc très très loin du France-Belgique de 2018. Et ça marque peut-être l'évolution de cette équipe-là. On parlait de l'ADN de la Belgique. L'ADN de la France, à l'Euro, on estimait que cette équipe de France serait peut-être un peu plus exposée, mais qu'en revanche, les trois de devant pouvaient faire la différence. Bah, peut-être qu'on y est enfin arrivé aujourd'hui, ce jeudi. Peut-être qu'on y est enfin arrivé et peut-être que c'est le début de cette nouvelle équipe de France-là. Et c'est pour ça que ça pourrait me faire un petit peu penser à France-Argentine. Maxime, toute proportion gardée, évidemment. Non. Je connais ton flegmatisme. Tu gardes plus la tête froide. Ça, c'est la vieillesse. Non, c'est le recul, l'expérience. Non,
cela dit, c'est un des rares matchs France-Argentine où. Voilà, oui. On a vu qu'on a basculé.
Il y a ce petit côté-là quand même.
On bascule dans une folie. Ah oui, complètement. Voilà.
Et alors, la question, Maxime, c'est. Et d'ailleurs, c'était le cas déjà dans France-Argentine. On s'était posé cette question-là. Mais est-ce que.
Est-ce qu'on faisait nos valises
ce soir. Alors, il y avait cette question-là qui était fondamentale, mais encore plus fondamentale. Est-ce que ce soir, les Bleus ont sauvé la tête de leur sélectionneur? Parce que si on fait un petit retour en arrière, si on se plonge à la 45e minute, après, honnêtement, 20 minutes de blackout total, où tu as l'impression qu'il y a tout qui ressurgit, où tu as l'impression qu'il y a des choses qui remontent, où tu es mené 2-0 par la Belgique, que tu ne vois pas le bout, que tu ne vois pas comment tu vas s'en sortir, et que si la seconde période ressemble aux 20 dernières minutes de la première, tu dis que tu es très très loin du haut niveau, du très haut niveau, et que tu t'en es largement éloigné depuis 2018, est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'à ce moment-là, Didier Deschamps ait vraiment les fesses qui chauffent?
Alors, les fesses qui chauffent peut-être, mais je pense que les Bleus n'ont pas sauvé la tête de Didier Deschamps. Elle était toujours bien accrochée à son cou. En revanche, il est vrai qu'à la mi-temps, je me suis posé très fort la question du qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et maintenant, on va faire quoi? C'est-à-dire qu'il change de système, il a encore construit son... Parce que la finalité du système mis en place ce soir, qui était le même contre la Finlande il y a un mois, jour pour jour, c'est construit de l'avant. C'est-à-dire que c'est pour mettre dans les meilleures positions les trois de devant, parce qu'il est persuadé à raison que ces trois joueurs-là ont un talent supérieur, au moins individuellement, et qui sont censés s'entendre. Ce soir, on a vu du mieux. Mais en effet, après, en gros, si ce soir, ils perdaient 2-0, voire pire, parce qu'à un moment, on s'est demandé si ça allait tourner
si ça allait pas tourner
raclée,
en corrida.
Pour moi, ça n'aura rien changé. Didier Deschamps est en contrat jusqu'à la Coupe du Monde. Il ira jusqu'à la Coupe du Monde, quoi qu'il arrive. Mais quand même, on se serait posé la question. Parce que qu'est-ce qu'il aurait fait pour la troisième place contre l'Italie? Alors, il aurait peut-être eu l'excuse de dire « on fait un peu tourner, c'est un match de coiffeur, un match de classement ». Mais n'empêche qu'à un moment, ce serait poser la même question. Ce soir, au moins, il a au moins gagné du temps sur les trois de devant en se disant « voilà, il y a un embryon de quelque chose qui peut marcher ». Chacun était dans une disposition psychologique meilleure, surtout par Kylian Mbappé, et on a vu la différence. Donc voilà, moi je pense qu'il moi, ce qui m'a plu, en fait, c'est que... Et d'ailleurs, Pogba, on a parlé en teasant à la fin du match, en disant, vous verrez ce qui s'est dit dans les vestiaires. Il y a eu des vidéos, parce que vous savez qu'il y a toujours les équipes de la FFF qui tournent des images, que vous pouvez retrouver sur le site de la FFF ou sur leur chaîne YouTube, je ne sais plus. Et en fait, voilà, il s'est passé quelque chose. Et ce qui me fait dire que Didier Deschamps n'a pas perdu la main, ou était loin de la perdre encore, c'est qu'il est audible, tout simplement. Dans les vestiaires, ça a discuté. Évidemment, il n'est plus le seul à parler parce que les joueurs sont tellement matures qu'ils peuvent faire le job. Et je suis sûr que Paul Pogba a eu son mot à dire et qu'il a dit 2-3 trucs dans les vestiaires. Mais au moins, ça dit de cette équipe-là. En fait, à partir du moment où on a décidé que Didier Deschamps restait à la tête de l'équipe de France, à partir du moment où lui a décidé de rester, parce que c'est quand même sa décision, je pense que Noël Le Graët n'a pas eu, entre guillemets, son mot à dire, eh bien, il restait. Mais au moins, on a vu que ce n'était pas perdu. On a vu d'autres entraîneurs de l'équipe de France qui avaient perdu la main et ça se sent. Là, on sait au moins qu'il n'a pas perdu la main. C'était aussi à ses joueurs de se mettre un petit coup de pied aux fesses et c'est ce qu'on a vu ce soir. Alors, ils l'ont sauvé, je ne pense pas. Mais en tout cas, ils lui ont donné du temps pour être un peu plus cool au moins jusqu'à dimanche et après, on verra.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est un match qui aurait pu le mettre dans une situation extrêmement inconfortable et les 45 premières minutes l'ont mis dans une position extrêmement inconfortable. Et finalement, c'est un match qui lui donne raison. Parce que le 3-4-3, le dernier but, c'est le 3-4-3. Ouais. C'est Pavard qui prend son couloir et c'est Hernandez qui marque. Le choix des hommes aussi, avec Théo Hernandez qui devient le héros de ce match. Un joueur qu'il a lancé il y a un mois. L'entrée de Tchouaméni qui est absolument. Enfin, moi, j'ai trouvé génial. Ouais, ouais. Donc, c'est finalement un match qui va donner raison à Didier Deschamps. Donc, comme quoi les analyses sont parfois fragiles et il faut bien se garder d'être définitif dans ses jugements.
Et la fragilité concerne Théo Hernandez, qui avait été très bon contre la Finlande.
Ah oui.
Qui ce soir, pendant très longtemps, on n'est pas très bon et même transparent. Et puis,
il ne fait pas d'erreur, mais il est quelconque.
Oui, il est quelconque, voilà. Et donc voilà, et encore une fois, voilà, je pense que Didier Deschamps, en fait, si l'équipe de France vient gagner la Ligue des Nations dimanche en battant l'Espagne de surcroît, ce qui ne serait pas rien, même si c'est une équipe en reconstruction, mais ça reste un demi-finaliste de l'Euro qui vient de battre l'Italie, championne d'Europe chez elle, et il gagne toute la distance jusqà la Coupe du Monde. Il devient complètement intouchable.
Il se donne un an de tranquillité. Parce que déjà, avec cette victoire, pour moi, il se donne beaucoup, beaucoup de tranquillité.
L'argument de cette équipe de France, et moi qui fonctionne avec moi, c'est que c'est une équipe qui gagne. À partir du moment où vous êtes champion du monde, vous avez prouvé que vous avez gagné. Ça ne vous donne pas un blanc-seing. Ça ne vous dit pas que vous saurez gagner la suite, mais au moins, ça montre que vous savez le faire. L'Euro, c'était une cicatrice parce qu'il s'est terminé trop tôt, trop vite et trop mal. Gagner cette Ligue des Nations donnerait à Deschamps l'argument de dire, vous voyez, hop, on a remis les choses en place parce qu'on a battu la Belgique et l'Espagne. C'est pas rien, on a gagné ce trophée. C'est peut-être un trophée en plastique, peu importe. Il se trouve qu'ils l'ont gagné. Il reste à se qualifier pour la Coupe du Monde, ce sera fait le mois prochain. Et puis derrière, vous avez un an pour préparer ça tranquillement. Donc je pense que l'argument de ce match-là, le premier argument, c'est ça. Et justement, la deuxième chose, ce sera dimanche. Parce que sinon, si ça se passait mal dimanche, encore une fois, on retomberait un peu dans les travers de ce qu'on a vu à l'Euro. C'est-à-dire, OK, l'Allemagne, c'est fantastique. Derrière, il y a la Hongrie. Là, ce ne sera pas la Hongrie, mais il faudra quand même continuer sur une phase positive pour, encore une fois, en deux matchs, on va dire en trois jours, il peut gagner 13 mois de tranquillité, pour faire simple.
Exactement. Ah, tu as tout à fait raison. J'ai rien à rajouter personnellement. On a hâte d'être dimanche pour cette finale de Ligue des Nations. On se prend au jeu. Franchement, on se disait, bon, Ligue des Nations, il y a quelques années. Là, franchement, c'est très chouette. Et puis, ouais, Espagne-France, ça sera encore une autre position de style. Maxime, merci. Je t'avoue que je suis mieux avec toi.
Je suis mieux avec toi ici,
mais bon, c'est quand même.
C'est plutôt moi qui serais mieux avec toi.
Moi, je serais mieux avec toi.
D'accord, je disais ici, c'est pour ça.
Mon bonheur serait total si tu étais avec moi ce soir. Voilà. Moi, c'est ma seule petite frustration du soir. Donc voilà, merci à Sébastien aussi qui réalise cet épisode. Puis on se donne rendez-vous dès demain.
Bah oui, alors là,
l'entraînement demain, des Bleus.
Ouais, demain c'est la Stream Team classique, mais pas classique, vous voyez. Ce sera pas l'entraînement des Bleus qui a c'est à 18h30, c'est ça?
C'est ça, ça va être très tard, Mathieu.
Donc voilà, non mais bon, c'est pas grave, à partir du moment où moi je passerai.
Merci beaucoup et à bientôt.
À bientôt, salut, à demain.
Ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.